à quoi ça sert les organisations? D'abord, une organisation, ça sert à offrir une place à chacun. Je ne connais pas d'individu, que ce soit au sein d'un bâtiment de combat, que ce soit dans une entreprise, à qui on ait donné une place qui ne soit pas au rendez-vous des enjeux auxquels il est confronté.
Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes, celui de soutenir les entrepreneurs qui donnent du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur vision.
Loïc Finage, je suis un officier de marine qui a servi son pays pendant de nombreuses années sur toutes les mers du globe. Et puis ensuite, et c'est l'un des intérêts de ce beau métier d'officier de marine, avec des fonctions très variées au sein de la marine, à partir du moment où je ne naviguais plus. Et en particulier, j'ai été le directeur d'une très belle école qui s'appelle l'école de guerre. Je suis profondément persuadé que ce que les marins comme moi appellent l'esprit d'équipage, qui est le cœur de notre organisation, de la société que nous formons à bord de nos bâtiments de combat, je suis persuadé que cet esprit d'équipage est en fait la source de performance pour n'importe quel système, que ce soit nos bâtiments de combat, que ce soit l'entreprise ou que ce soit la société dans son ensemble. Et c'est ce dont nous allons parler dans cet épisode. Il est dangereux de faire intervenir un ancien directeur de l'école de guerre parce qu'il va naturellement vous parler d'un peu de géopolitique. Mais après tout, c'est aussi une façon d'essayer de mieux comprendre le monde et d'aborder ensuite des sujets dont on n'a pas toujours conscience qu'ils sont liés, mais qui ont des vrais rapports. Cela me permet de vous raconter une histoire que personnellement je trouve très intéressante. Cette histoire de dialogue mélien qui nous est racontée par Thucydide dans sa « Guerre du Péloponnèse ». On devrait y revenir plus souvent parce que la guerre du Péloponnèse de Thucydide, c'est en fait la meilleure des gazettes d'aujourd'hui. Et dans la guerre du Péloponnèse, qui est cette guerre qui a agité la Grèce à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, siècle fascinant d'ailleurs parce que c'est le siècle de Périclès, mais c'est aussi le siècle de Bouddha, c'est le siècle de Confucius, et c'est le siècle où les Hébreux écrivent la Genèse. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'humanité au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais c'est un siècle absolument fascinant. Mais revenons à la Grèce. Il se trouve qu'en 480 avant Jésus-Christ, avec la bataille de Salamine, la guerre entre les Grecs et la Perse se termine. On a appelé ces guerres les guerres médiques. Et donc 480, bataille navale, gagnée par Thémistocle, met fin à cette guerre. Les Perses ne reviendront plus en Grèce. Mais pour combattre, parce que les guerres médiques ont duré plusieurs années, contre les Perses, Athènes, qui était la cité dominante en Grèce à l'époque, a mis en place ce qu'on appelle la Ligue de Délos. Et en gros, la Ligue de Délos, c'est soit vous payez un tribut, soit vous donnez des troupes à Athènes qui ensuite va les utiliser pour se battre contre les Perses. Après Salamine, la menace perse disparaît, et comme je vous le disais, elle ne reviendra pas, mais Athènes conserve la Ligue de Délos comme suprématie sur l'ensemble des autres cités grecques. Et suprématie qui est politique, militaire, économique, financière, administrative, juridique. C'est extrêmement intéressant parce qu'on pourrait faire un parallèle entre ce qui s'est passé à l'époque en Grèce et ce qui se passe dans l'Occident aujourd'hui avec l'OTAN et les États-Unis. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de notre jour. Il se trouve que cette suprématie athénienne va durer à peu près 80 ans et va finir par lasser les cités grecques et en particulier Sparte. Et c'est ce qui va déclencher la guerre du Péloponnèse. Et dans cette guerre, il y a un épisode très intéressant qu'on appelle l'épisode mélien et que Thucydide nous raconte très bien. C'est en 416 avant Jésus-Christ. Les Athéniens débarquent à Mélos. Mélos, c'est une petite île de la mer Égée, au sud-est d'Athènes, à l'est de Sparte. Et les Athéniens demandent aux Méliens de payer un tribut. Et les Méliens répondent qu'ils sont une petite cité pacifique, ce qui est vrai, neutre. Ça, c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils sont du côté de Sparte. Et que donc, ils invoquent le sens de la justice d'Athènes et sa clémence à l'égard de leur petite cité, neutre et pacifique. Et les Athéniens répondent qu'il n'y a pas de justice entre puissances inégales, assiègent la ville, la femme, forcent sa reddition, tuent tous les hommes et réduisent les femmes et les enfants à l'esclavage. Et redisent, la justice n'est prise en compte dans le raisonnement des hommes que lorsque les forces sont égales de part et d'autre. Dans le cas contraire, les forces exercent leur puissance et les faibles doivent leur céder. C'est ce qu'on appelle le dialogue mélien, c'est ce qui, depuis la Grèce d'Athènes, jusque à la Rome antique, hein, Tacite aura cette phrase terrible, il dira, c'est à la fin des guerres puniques, ça c'est les guerres entre Carthage et Rome, Tacite dira, Rome fit de Carthage un désert, les Romains firent de Carthage un désert, et ils appelèrent cela la paix. Hein. Ensuite, à l'Europe de Napoléon, à celle d'Hitler, et maintenant à la Russie de Poutine, c'est l'ordre mélien qui régit le monde. Tant qu'on n'a pas compris cela, on n'a rien compris au monde. C'est le premier constat que nous devrions tous faire avec plus de clairvoyance. Le monde est régi par l'ordre mélien. Et le deuxième constat que l'on peut faire, c'est que, hélas, cet ordre mélien régit effectivement le monde de manière imparable. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les faibles le payent tout de suite. Mais même les forts finissent par le payer. Et d'ailleurs, à la fin de la guerre du Péloponnèse, c'est Athènes qui perd. Donc l'ordre mélien, c'est ce qui régit le monde. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas comprendre le monde tant qu'on n'a pas compris cet ordre mélien et qu'on n'en est pas conscient. Mais en même temps, il faut savoir qu'il ne fonctionne pas. Et donc il faut essayer de lui apporter des réponses. Mais on ne peut pas apporter des réponses à quelque chose qu'on n'a pas comprise et que l'on nie. Alors évidemment, vous pouvez me poser la question de savoir, mais quel est le rapport entre l'ordre mélien et l'esprit d'équipage ? Puisque cet ordre mélien qui régit le monde ne fonctionne pas, il faut lui apporter un certain nombre de réponses. Il y en a une évidente, mais qui, hélas, en ce moment, fonctionne vraiment, vraiment très mal, c'est ce qu'on appelle le multilatéralisme, et c'est l'ordre de la géopolitique. Ça, hélas, ne fonctionne pas bien. Il y a aussi ce que j'appelle ma théorie des clairières, c'est cette idée qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté partout, à tous les échelons de la société, et que ces hommes et ces femmes de bonne volonté, dans le périmètre d'influence qui est autour d'eux, ils aident le monde, non seulement à ne pas aller plus mal, et peut-être même, malgré tout, à aller de mieux en mieux. Et enfin, il y a, mais on pourrait trouver d'autres idées, mais en particulier, c'est l'idée que je vous soumets, il y a ce que les marins appellent l'esprit d'équipage, qui fonctionne là aussi à tous les étages, et comme je l'ai déjà dit, aussi bien sur un bâtiment de combat que dans l'entreprise, que dans la société dans son ensemble. Et cet esprit d'équipage est intéressant, est une réponse à cet ordre mélien qui ne fonctionne pas, parce qu'il est la source de la performance pour n'importe quel système. Et cet esprit d'équipage, on peut le définir à partir d'un certain nombre d'associations. Je vais en choisir 7, mais on pourrait en trouver d'autres. Alors, première question que vous pourriez me poser, d'abord, c'est pourquoi des associations ? Pour deux raisons. D'abord, parce que cet esprit d'équipage, il est au cœur de la problématique du leadership. Et le leadership, c'est une notion totalement collective. Tous ceux qui vous parlent de leadership en évoquant simplement les qualités individuelles d'un individu tout seul, c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Il n'y a pas de notion plus collective. Et puis d'autre part, une qualité toute seule en soi, c'est pas forcément une qualité. Si je vous demandais, est-ce que vous pensez que le charisme est une qualité pour un chef ? La probabilité pour que vous me répondiez, ben, oui, bien sûr, est assez forte. Sauf que moi, je vous réponds que si ce chef... c'est un crétin ou un salopard, son charisme ne va pas être une qualité, bien au contraire, ça sera une véritable catastrophe. Si vous posez au regard de son charisme, son éthique, là vous voyez que ça commence à être intéressant et que vous avez bâti une association qui rend effectivement compte de l'intérêt ou de la qualité de ce chef en question. Et vous voyez d'ailleurs, je vous avais dit que j'en avais choisi 7, en voilà déjà une 8e qu'on pourrait utiliser, charisme et éthique. Mais pour revenir à l'esprit d'équipage, je vous propose de les définir à partir des 7 associations suivantes. Et la première repose sur ces très beaux noms d'autonomie et de solidarité. C'est quoi être un chef ? Être un chef, c'est avoir des hommes et des femmes qu'on vous a confiés pour une mission. Faites des hommes et des femmes qu'on vous a confiés des gens autonomes et solidaires et vous décrocherez la lune ensemble. Il y a un autre intérêt autour de cette première association, c'est qu'elle permet de mieux comprendre à la fois ce que sont nos organisations et l'importance de l'initiative. Et c'est le premier commentaire que je ferai. L'initiative, c'est fondamental. Aujourd'hui, dans un monde complexe, il n'y a pas de possibilité de traitement de cette complexité du monde sans initiative. Mais il ne peut y avoir d'initiative sans des chefs qui disent « prenez des initiatives ». Et faites-le sans état d'âme parce que j'accepte aussi l'idée que vous puissiez vous tromper. Je ne vous demande pas de faire zéro erreur. Et justement, le chef doit dire, prenez des initiatives. Et si à un moment donné, vous vous trompez, c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est mon rôle de chef de m'en rendre compte et on corrigera le tir ensemble. Et pour une initiative malheureuse, il y en aura eu auparavant 9 bénéfiques, heureuses et efficaces. Et donc, la 10e malheureuse, c'est pas grave, on la corrigera. Puis en plus, il se trouve que probablement, elle nous apprendra beaucoup plus de choses que celles qui ont bien marché et pour lesquelles on n'a pas toujours analysé pourquoi ça avait marché. Et puis le deuxième commentaire que je voudrais faire à propos de toujours d'autonomie et solidarité, parce que c'est au cœur de cette problématique, c'est à propos de nos organisations, en posant la question tout simple de à quoi ça sert les organisations. Et en fait, je suis juste sidéré qu'on n'apporte pas une réponse, parce qu'en plus elle est simple, à cette question fondamentale. D'abord, une organisation, ça sert à offrir une place à chacun. Ça sert à donner une place à chacun. Je ne connais pas d'individu, que ce soit au sein d'un bâtiment de combat, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans la société, dans son ensemble, et là on est au cœur des problématiques de la société, à qui on ait donné une place qui ne soit pas au rendez-vous des enjeux auxquels il est confronté. Donc une organisation, ça sert d'abord à offrir une place. C'est ce qui permet ensuite à chacun d'entre nous d'être suffisamment fort, structuré, corseté et capable d'affronter les problèmes qui vont être sur notre route. Le deuxième rôle d'une organisation, c'est de permettre la délégation et la subsidiarité. La délégation, c'est ce qui offre à un système, surtout s'il est compliqué, la rapidité de réaction. Il n'y a pas de rapidité de réaction sans délégation. Et donc c'est fondamental. Nous sommes dans un monde où la rapidité est fondamentale. Aujourd'hui, ce n'est pas les gros qui mangent les petits, c'est les rapides qui tuent les lents. Évidemment, c'est réducteur ce que je dis, mais c'est assez... Et la caricature permet souvent d'expliquer véritablement ce qui se passe. Et donc la délégation, c'est fondamental, puisque c'est ce qui va vous offrir la rapidité de réaction. Et puis la subsidiarité, c'est ce qui va libérer le chef pour que, en particulier, il puisse continuer à regarder vers l'horizon et à préparer le coup suivant, que ce soit un coup donné ou un coup reçu. Et puis enfin, et c'est le troisième rôle des organisations, c'est que lorsque la mission n'est pas claire, lorsque le sens n'est pas là, et c'est fondamental la question du sens, lorsque les chefs sont défaillants, parce que ça arrive hélas, eh bien l'organisation permet de tenir. Voilà ce que je pouvais dire déjà sur cette première association. La deuxième association repose sur les mots de fonction, au pluriel, et de responsabilité au singulier. Le distinguo est important. À bord des bâtiments de la marine, nous avons tous des fonctions différentes. Et c'est normal parce que nous avons des talents différents. Nous sommes issus de formations différentes et de sélections différentes. Et qui nous confèrent, lorsque c'est bien fait, pas toujours le cas, mais lorsque c'est bien fait, des fonctions. Elles sont donc différentes. Mais si nous avons des fonctions différentes, nous portons tous la même responsabilité. Et ça, c'est absolument primordial à comprendre. Lorsque je commandais les bateaux que j'ai eu la chance de commander et que nous revenions à quai, ma fonction de commandant, c'était de concevoir la manœuvre et de l'ordonner. Et puis, j'avais à mes côtés un jeune homme ou une jeune femme d'à peine 20 ans qui était barreur. La barre sur ces bateaux, ça ressemble à une barre à roue, mais c'est pour des raisons ergonomiques. En fait, c'est un simple interrupteur, droite-gauche. Et donc, la fonction du barreur, c'est de toucher un indicateur et de le mettre vers la droite ou vers la gauche. Vous pensez ce que vous voulez des fonctions du commandant qui conceptualise, qui ordonne, et que toute une équipe, à la passerelle et sur l'ensemble du bateau, écoute religieusement, et du pauvre barreur dans sa fosse de barreur qui fait juste droite-gauche. Vous pensez ce que vous voulez de ces fonctions. Si vous n'avez pas compris qu'à ce moment-là, ils sont aussi importants l'un que l'autre, qu'ils portent la même responsabilité, parce que s'il met la barre à droite, quand je dis à gauche 20, ou si à l'inverse, c'est moi qui dis à gauche 10, alors qu'il aurait fallu dire à droite 20, l'un comme l'autre, nous plantons le bateau sur le quai. Donc, même responsabilité, c'est une source de performance exceptionnelle et c'est un ciment social fabuleux. Ce que je viens de dire, évidemment, à nouveau, s'exprime et est important pour nos bâtiments de combat, pour l'entreprise, mais pour la société dans son ensemble. Hiérarchie participation, la troisième association. Tout le monde croit connaître, avoir une idée du système managérial des armées. Et on se dit, dans les armées, c'est normal, il y a une hiérarchie extrêmement forte, c'est une organisation verticale forte, et on obéit parce qu'on a reçu un ordre, et comme ça, ça marche. Je ne vais pas vous dire que c'est faux, je vais simplement vous dire que c'est vrai, mais dans une circonstance particulière seulement. C'est vrai, et c'est nécessaire pour le combat. Parce qu'au combat, on n'a plus le temps d'échanger. La violence et la rapidité du combat vous imposent effectivement cette hiérarchie très forte. Mais cette hiérarchie ne fonctionnerait pas si elle ne reposait pas sur la confiance qui nous lie. Dans les armées, on obéit à un ordre, pas parce qu'il nous l'est donné, mais parce qu'on a confiance dans celui qui nous le donne. Et cette confiance, c'est autre chose qu'il a construit. La hiérarchie utilise la confiance, elle ne la crée pas. Cette confiance est créée par un système de participation qui fait qu'au quotidien, quand on n'est pas au combat, nous passons notre temps à échanger. Le commandant d'un bateau de guerre passe sa vie à demander son équipage, son avis sur tout. Et pourquoi on fait cela? On a plein de commissions. On a plus de commissions, mais que partout ailleurs. Même à la CGT, il n'y a pas autant de commissions que sur un bâtiment de combat. Et pourquoi on fait ça? Là encore, pour trois raisons. La première raison, qui est la plus évidente, qui n'est pas la plus importante, mais qui est la plus évidente, et qui d'ailleurs serait suffisante en soi, c'est que les marins comme moi considèrent que lorsque vous êtes 10 pour résoudre un problème, surtout s'il est compliqué, vous avez plus de chances de trouver de bonnes idées que si vous êtes tout seul. La deuxième raison est dans notre temps du numérique et du télétravail, on devrait la méditer un peu plus, c'est parce que en faisant cela, nous mettons ensemble des gens qui pourraient ne jamais se rencontrer. Le mécanicien ne pourrait jamais rencontrer le timonier qui travaille à la passerelle. L'infirmier, a priori, il peut être susceptible de rencontrer tout le monde, parce que si vous êtes malade, il vous verra. Mais l'infirmier pourrait ne jamais rencontrer l'électronicien ou n'importe quel autre membre d'équipage qui a une fonction différente de la sienne. Et donc, en mettant ces gens ensemble, à mon avis, d'abord, on bâtit un monde meilleur, on croise des idées différentes, et on se donne là aussi une capacité à être plus performant. Et puis, enfin, et c'est la raison la plus importante, c'est que dans ce processus quotidien d'échange, c'est là que nous bâtissons cette confiance qui est nécessaire pour que, ensuite, au combat, la hiérarchie soit efficace. Et si je reviens maintenant avec des mots qui sont plus ceux de la société civile et ceux de l'entreprise, en fait, ce que je viens de vous dire, c'est que je viens de vous parler des organisations verticales et des organisations horizontales. Les organisations verticales et les organisations horizontales doivent être combinées en permanence. Et dans un ratio, et ça c'est le rôle du chef de savoir quel est le ratio, et dans un ratio qui change en fonction des circonstances. Dans certains moments rares, vous êtes très proche d'un 100% vertical, mais ces moments sont rares. C'est le combat sur les bâtiments de guerre. Il se trouve qu'en plus, ça repose sur tout un système de délégation extrêmement sophistiqué. Mais bon, simplifions le problème. Et puis, dans d'autres moments, au contraire, vous êtes très proche d'un 100% horizontal, les moments où il va falloir phosphorer ensemble, réfléchir pour des sujets. Et puis, il y a tous les moments intermédiaires, où en fait, c'est une combinaison des deux. Et donc, opposer dans la société civile, et en particulier dans l'entreprise, l'organisation verticale et l'organisation horizontale, c'est totalement idiot. C'est vraiment n'avoir rien compris au monde et aux problématiques que nous avons à résoudre. On doit les combiner dans des ratios, effectivement, qui diffèrent. Quatrième association, elle repose sur les très beaux mots d'exigence et de bienveillance. Alors, je sais, aujourd'hui, le mot bienveillance ne veut plus rien dire. Et le mot bienveillance est un très beau mot. Et ce n'est pas parce qu'il est utilisé n'importe comment qu'il faut le laisser tomber. C'est un mot merveilleux et important. Si vous n'êtes pas exigeant, vous ne bâtirez rien. Vous n'obtiendrez rien, surtout lorsque c'est difficile. Mais si vous n'êtes pas bienveillant, vous ne construirez rien dans la durée et même vous détruirez tout. Et donc l'exigence et la bienveillance, c'est une association fondamentale dès qu'on a des responsabilités. Mais ça ne concerne pas seulement ceux qui sont les chefs, ça concerne tout le monde. D'abord, pour le chef, ça commence par, s'il n'est pas exigeant vis-à-vis de lui-même, il ne risque pas d'obtenir la bienveillance de ceux qu'on lui a confiés. Et à l'inverse, l'exigence des subordonnés par rapport à leur patron, si elle ne s'inscrit pas dans une bienveillance à son égard, elle ne produira rien parce qu'elle ne conduira pas à lui dire la vérité, elle ne conduira pas à être solidaire de lui lorsqu'il faut être solidaire de lui. Et donc, tout ce cocktail, comme je disais que les organisations verticales et les organisations horizontales devaient être sans cesse combinées, et là, c'est la même chose. Exigence et bienveillance doivent être combinées. Très souvent, les gens disent, mais en fait, ok, mais bon, bienveillance, et puis de toute façon, un chef, en fait, il faut qu'il soit exemplaire. Le truc important, c'est l'exemplarité. Je dis, l'exemplarité, ça veut dire quoi? Si votre exemplarité est la fille de votre exigence de bienveillance, là, effectivement, ça devient intéressant. Association suivante, culture et énergie, c'est peut-être celle qui surprend le plus, mais elle est très importante, d'abord parce que si, alors, ce genre d'expression est, parce que tellement simplificateur, donc un peu fausse, mais ça peut être utile parfois dans le langage, si un chef ne devait être qu'une seule chose, ça devrait être une énergie. Parce que c'est à partir de son énergie que tout va se mettre en place, que celle des autres va s'exprimer, et que cela va perdurer. Le vainqueur sur le champ de bataille, c'est pas toujours le plus beau, le plus grand, ou celui qui a le plus beau joujou. C'est toujours le plus endurant. Donc l'énergie, c'est fondamental. Alors pourquoi la culture au regard de l'énergie ? Pour deux raisons. D'abord parce que la culture, c'est déjà en soi une source d'énergie. Parce que sans culture, il n'y a pas de vision. Sans vision, il n'y a ni prospective ni perspective. Et sans prospective ou perspective, le matin, on reste dans son lit. Et donc, la culture, c'est une source exceptionnelle d'énergie. Et c'est une source gratuite et qui ne pollue pas. Et par les temps qui courent, c'est vraiment bête de passer à côté. Et puis, il se trouve que ça n'est pas seulement ça, la culture, c'est aussi, les marins utilisent cette très belle expression qui s'appelle la ligne de foie. La ligne de foie, pour les marins, c'est d'abord un terme technique, c'est l'axe de progression de nos bateaux. Vous voyez combien cette expression a aussi beaucoup plus de richesse en soi. Et donc la culture, c'est ce qui nous permet de savoir où on peut aller, et plus encore où il ne faut pas aller. Et donc cette combinaison d'énergie et culture est fondamentale. De Gaulle le rappelait tout le temps, hein, et De Gaulle écrit très bien sur le commandement. Là aussi, il faut relire Thucydide, mais il faut aussi relire De Gaulle, Vers l'armée de métier ou Le fil de l'épée. Et De Gaulle dit bien qu'il n'y a pas de chef qui ne soit pas extrêmement cultivé. On ne peut pas être un bon chef si on n'est pas cultivé. Intelligence et courage, l'avant-dernière association. Et là, l'enjeu, c'est essentiellement l'harmonie entre ces deux qualités. Plus vous serez intelligent, plus vous comprendrez l'ensemble des problématiques qui sont en face de vous et plus vous verrez les embûches qui sont sur votre route. Et si vous n'êtes pas courageux, puisque vous voyez justement l'ensemble des difficultés qui sont en face de vous, vous ne saurez pas les affronter, vous ne saurez pas choisir, vous ne saurez pas décider. Dans la vie, la plupart du temps, on ne choisit pas la meilleure solution. On essaye de trouver la moins mauvaise. Ça demande du courage. Et donc, plus un chef sera intelligent, plus il faudra que son courage soit à la hauteur de son intelligence. Ou bien qu'à l'inverse, si vous êtes extrêmement courageux et totalement idiot, ça ne va pas être top. Parole et temps, la septième association. Parole et temps parce que, et on oublie, indépendamment de tout credo, de toute spiritualité, on devrait relire plus souvent le début de l'évangile de Saint Jean, hein, qui dit « au début était le Verbe ». Et oui, au début était le Verbe, au milieu est encore le Verbe et à la fin est toujours le Verbe. La parole, c'est l'acte emblématique du chef. Parce que c'est par sa parole qu'il va partager sa vision. Et on n'emmène personne si on ne fait pas comprendre et adhérer à une vision. C'est par sa parole qu'il va conférer son énergie, dont on a déjà parlé. Et c'est par sa parole qu'il va mettre en branle, c'est par sa parole qu'il va faire durer. Donc, la parole, c'est l'acte emblématique du chef. Et cette parole doit s'inscrire dans le temps, parce que seule la virtualité échappe au temps. Alors, je sais qu'on prétend être dans un monde virtuel, mais le monde virtuel ne nous a jamais nourris, il ne nous fait pas vivre. L'action s'est incarnée, ça s'inscrit dans le temps. Avec cette double problématique, qui est souvent difficile à prendre en compte, qui est à la fois la gestion du temps long et du temps court, qui peuvent être antinomiques. Vous pouvez être obligé de prendre une décision parce que si vous ne la prenez pas dans le temps court, le prix sera trop cher à payer, voire même vous allez en mourir. Sauf que dans le temps long, cette décision peut être mauvaise. Et donc, soit il ne faut pas la prendre, si vous savez résoudre le problème autrement, soit s'il est absolument indispensable qu'il n'y a pas d'autre moyen et donc que vous êtes obligé de la prendre, dès l'instant où vous l'avez prise, il faut commencer à mettre en place les choses qui vont contrecarrer ce qui, dans la durée, n'est pas bon. Alors, on peut reprendre tout ce que je viens de dire avec quatre mots supplémentaires, mais qui, en fait, reprennent tout ce que nous venons de dire dans nos échanges avec ce que j'appelle les quatre points cardinaux du chef. Je parle de points cardinaux parce que je suis un marin, mais c'est une géographie qui est valable pour tout le monde. Et les quatre points cardinaux du chef, qu'il commande un sous-marin nucléaire d'attaque, une frégate anti-sous-marine, qu'il soit chef d'entreprise ou qu'il ait des responsabilités différentes dans la société, au service de la cité, ces quatre points cardinaux, ce sont les mêmes pour tout le monde. Ce sont la mission, le sens, les circonstances et les hommes. La mission. On est chef parce qu'on a une mission. Pas de mission, pas de chef. Alors, très souvent, on est chef parce que ça flatte nos égos, parce qu'on a le sentiment qu'il faut absolument remplir des organigrammes. Non, non, on est chef parce qu'on a une mission. Pas de mission, pas de chef. Et d'une manière générale, même si vous n'êtes pas chef, vous vous levez le matin parce que vous avez une mission que vous allez remplir avec d'autres. Le deuxième point cardinal, c'est le sens. Et il est absolument fondamental et hélas, on l'oublie trop souvent. Et donc, c'est la première responsabilité du chef à qui on a confié une mission, c'est d'être capable de comprendre le sens de cette mission et de l'expliquer à ceux avec qui il va aborder cette mission. C'est tellement important que si ce sens, on ne l'a pas trouvé, après l'avoir cherché honnêtement, il y a des domaines, il y a des métiers où ce sens est évident. Moi, je viens d'un monde où il nous était donné et il était fort. Parfois, c'est plus difficile à trouver. Mais il est fondamental, c'est indispensable de le trouver. Et c'est tellement important que la responsabilité d'un chef qui a cherché honnêtement le sens, s'il ne l'a pas trouvé, c'est de refuser la mission. Parce que c'est trop important. C'est ce dont nous souffrons trop souvent, l'absence du sens. D'une manière plus générale, c'est la problématique de la société d'aujourd'hui. On nous parle tous les jours de la problématique de l'autorité, de la disparition de l'autorité, de l'absence d'autorité. Mais c'est pas vrai. C'est pas un problème d'autorité. C'est une question de sens. Il n'y a pas de problème d'autorité lorsque le sens est là. Et donc, le problème de l'autorité de notre société d'aujourd'hui, en fait, c'est le problème du sens. C'était le deuxième point cardinal. Le troisième, ce sont les circonstances. Et j'évoquais De Gaulle tout à l'heure, et De Gaulle le redit souvent, Napoléon était obsédé par les circonstances, parce qu'il avait compris leur importance. Parce que si vous ne les prenez pas en compte, en fait, c'est elles qui vont diriger et commander. Or, il faut justement les prendre en compte pour ne pas être commandé par elles. Mais pour savoir, un, comment s'y adapter, et deux, comment les utiliser. Toutes les circonstances, c'est primordial, les grands chefs l'ont toujours compris. Et ceux qui ne l'ont pas compris, parce qu'ils ne savent pas justement les prendre en compte, en fait, sont dirigés par les circonstances, ce qui est une vraie catastrophe. Et puis enfin, le quatrième point cardinal, le dernier, mais évidemment, évidemment le plus important, ce sont les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, les hommes ? Être chef, c'est avoir la responsabilité d'hommes et de femmes qu'on nous a confiés. Ça n'est pas les avoir pour qu'ils vous servent, c'est vous qui les servez. Être chef, c'est l'une, c'est pas la seule, mais c'est l'une des plus belles façons de servir les autres, et en particulier ceux qu'on vous a confiés. Et là, et ça sera mon dernier mot, et là aussi, en fait, il résume tout, ces hommes et ces femmes qu'on vous a confiés, le plus important, c'est de les aimer. Tout le reste n'est que discours.
Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille et la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée.